Boilard 90, désormais chef Boilardi, la réalité des condos et de Airbnb. Alors là, c'est bizarre parce que vous allez dire, mon Dieu, il me semble qu'on est complètement ailleurs. Ben oui, figurez-vous que c'est pas mal le propre de mon podcast, c'est d'aller un peu partout. Et c'est la nouvelle qui est sortie dans la presse ce matin. Donc nous sommes on est vendredi le 12 octobre. Je vais mettre la date maintenant pour que les gens sachent à quelle date. Bon, c'est pas nécessairement important, mais en tout cas, bref. Et puis, ça dit qu'après quelques années, à partir du moment où les gens ont aménagé dans leur condo, dans la tour des Canadiens, qui s'est vendue dans un temps record, tout a été vendu sur papier. C'est très rare que ça arrive, là, c'est-à-dire que le marché du condo, depuis quelques années, il est bon à Montréal, bon, ça se vend, etc., les prix montent, blablabla, mais la tour des Canadiens, il y avait vraiment eu un engouement autour de ça qui était hallucinant. Sauf que, pas en le cachant, en tout cas, là, je vous dis ce que je sais de d'autres articles que j'ai lus dans les journaux, pas en le cachant, mais pas en le dévoilant big time, le projet au complet a été vendu il y a quand même de cela longtemps. Là. On parle là, que ça fait peut-être 5, 6 ans, 7 ans que la mise en vente a été faite. Puis, ça prévoyait la location à court terme. Bon, location à court terme, ça a été rendu très, très populaire par Airbnb. Ils n'ont pas inventé ça. Avant, c'était des gens qui étaient des propriétaires qui organisaient ça de façon, si on veut, professionnelle. Airbnb, il y a un terme qui vient avec ça, on dit « uberiser le commerce », c'est-à-dire que tous et chacun peuvent maintenant participer à cette économie-là de partage. Le mot est beau, dans la vraie vie, c'est une jungle. Mais ça fait en sorte qu'il y a des gens qui, un peu naïvement, parce que souvent les gens en condo agissent comme des locataires, ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire que quand tu es à loyer, tu as le droit à un service. Quand tu es propriétaire, non. La réponse, c'est que tu n'as pas le droit à un service. Tu peux engager des gens, donc les gens qui entretiennent, par exemple, la tour ou le projet de condo où tu es, ben, ils sont engagés par les propriétaires, mais les propriétaires ne sont pas des locataires. Ils n'ont pas un service qui leur est dû. Si tu es propriétaire, c'est l'inverse. Ça fait qu'il y a du monde qui a acheté des condos dans la tour des Canadiens. Et puis, se sont ramassés avec du brouhaha épouvantable parce que plein de monde avait acheté des unités pour pas les habiter. Alors, c'était le bordel. Franchement, on entendait dire, là, il y a eu des articles dans la presse, justement, il y a à peu près un an de ça, du monde qui était des résidents normaux qui avaient mal regardé ou qui s'étaient pas assez informés ou peu importe. Là. Il y a peut-être une responsabilité même au niveau du vendeur à ce moment-là de dire clairement. Mais il faut dire qu'on était un peu au début de la frénésie du Airbnb. Tu sais, ça fait que il y a des choses qui ont peut-être passé dans le crack. Bref, moralité, on apprend dans l'article que là, le syndicat des propriétaires a voté que maintenant, c'était 31 jours minimum pour éviter le va-et-vient d'un week-end avec la gang de gars de Boston, de Toronto ou d'ailleurs qui arrivent, puis les autres sont sur le party, ils vont voir les Canadiens ou un show au Centre Bell. Puis c'est sûr que c'est le rêve là, pour un touriste là, d'aller dans tour. Tour de luxe, oui, ça coûte cher, mais tu descends en bas, tu es au Centre Bell, tu vas deux coins de rue, tu es sur pile, je veux dire, c'est trippant, là. C'est le meilleur du centre-ville, là. Il n'y a aucun doute. Mais moi, je vous en parle parce que c'est la notion de bon voisinage qui, moi, m'obnubile. Puis j'en ai parlé souvent, ça, à la radio. C'est-à-dire que je trouve tellement que c'est l'affaire la plus importante pour moi d'avoir un voisinage tranquille. Puis je trouve ça tellement irritant, quelqu'un qui s'en sacre. J'ai ouvert les lignes là-dessus, à un moment donné, sur des problèmes de voisinage, etc. Puis les gens en ont tellement long à dire. Puis c'est vraiment irritant. Puis ce qui est irritant pour moi... Puis là, tu vois que ça vient chercher plus les valeurs que réellement juste le bien dormir, mal dormir. Là. C'est que j'en reviens pas que quelqu'un ait pas ce que j'appelle les antennes sociales assez développées pour respecter le voisin de l'autre bord du mur. Puis moi, j'ai quasiment déménagé, vendu même mon condo à cause du voisin que j'avais avant. C'est-à-dire que la principale raison, c'est que j'étais aussi... Moi, j'ai toujours été dans le quartier des spectacles depuis longtemps, puis j'étais aussi pas loin d'où j'habite maintenant. Puis ils ont annoncé deux tours de 25 étages qui allaient monter, qui ont commencé. Dont une qui est carrément à côté sur le building. Puis je me disais, moi, c'est pas vrai que je vais me faire driller dessus pendant 5 ans. Deux tours, tu sais. Pas des 10 étages, ce qui est déjà quand même un projet, là. Mais on parle de 23 puis 25 étages, tu sais. Là, j'ai fait non, non, non. Mais ça, c'est la version officielle. La version non officielle, c'est que j'en pouvais plus de mon voisin, qui était même pas si fréquent dans ses bruits, mais qui a créé chez moi un stress que... Chaque week-end, je me demandais, à soir, je vais-tu dormir? Il va-tu rentrer à 3h du matin avec sa gang puis partir la musique? Puis j'allais l'avertir, puis quand je l'avertissais, il arrêtait. Mais ça pouvait arrêter pendant des semaines, puis à un moment donné, ça repartait. Puis je trouvais ça épouvantable parce que je me disais, quel recours on a vraiment contre un voisin qui veut vraiment te faire du trouble? Puis je le répète, c'est pas qu'il voulait vraiment me faire du trouble. Il était juste, tu sais, il était gazant. Puis quand il mettait sa muse à 3 heures, ben, je veux dire, le mur l'autre bord, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'entendais, sa musique, puis avec sa bass, puis le gros house, puis telle affaire. Puis je trouvais ça épouvantable. Puis c'est ça, c'est que j'en reviens pas, puis je me demande tout le temps, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est irrité profondément par une situation, puis un autre s'en fout? Moi, j'ai un de mes chums qui me dit, ah, moi, j'entends l'autre bord du mur qui joue du piano à tout bout de champ. Ah, moi, je capoterais. Il dit, non, il se joue du piano. Ah, c'est sûr que c'est pas comme une musique agressante de discothèque. Mais déjà, je voyais une différence entre quelqu'un qui dit ça joue du piano l'autre bord, à la rigueur, c'est comme si j'ai un concert gratuit. Puis moi, qui dans ma tête, je me dis, mais comment ça se fait que tu te demandes pas si le voisin l'entend, ta musique? Comment? Alors lui, le gars que je vous parle, là, mon ancien voisin, à un moment donné, la musique part comme je n'avais jamais entendu. Je pensais même pas qu'un système de son pouvait jouer de même, honnêtement. Le gars, il s'était équipé avec je sais pas quoi. Puis là, je frappe dans la porte, mais comme un malade, là, tu sais, genre, j'irai pas poliment, là. Là, tout à coup, j'ouvre, il y a deux, pas une, deux, mais des espèces de filles, Europe de l'Est, là, c'était marqué « escorte » dans leur front, là, tu sais, c'était comme « qu'est-ce qu'ils font là? Je les ai jamais vus dans le building. C'est quoi l'affaire, tu sais? » Puis là, je fais « il est où le voisin? » Tu sais, puis sur un ton bien agressif. « Ah, il est pas là, il est parti chercher, je sais pas trop. » Je dis « mais là, ta musique, ça part à part, là. » Puis, hop, tout à coup, je vois la police arriver, donc un autre voisin avait allumé aussi. Puis là, les filles, avec leur technique, de, justement, de racoleuse, « Ah, rentrez, c'est la fête de mon ami. » Puis, tu sais, écoute, là, ils ont fait... J'ai fait « Vous parlez pas au bon gars. » Zéro, là. J'ai dit « C'était beau, mais l'offrait gratis, ton service fantastique, là, à soir, là. C'est ta gueule, ferme la musique ou sac ton camp, ça m'a fait plaisir, tu sais. » Mais c'était vraiment n'importe quoi. Puis c'est là que je vois à quel point... Puis je me mets à la place des gens de la Tour des Canadiens qui ont dû probablement débattre longtemps... Parce que ça, c'est l'autre affaire. C'est là que c'est un vrai dilemme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en toute conscience, ont acheté des condos dans le Tour des Canadiens pour faire de la location à court terme. Et tout à coup, le règlement change en dessous de leur nez parce qu'il y a des résidents qui ont dû voter en majorité pour dire, ben nous autres, on est ici, puis c'est ça qu'on veut. Ça fait que, tu sais, dans un monde idéal, il n'y aurait pas de chicane. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a vraiment eu un imbroglio au niveau de la communication, de la vocation de la Tour. Puis là, on apprend que c'est terminé maintenant 31 jours. Puis quelqu'un qui arrive pour un mois, c'est par définition quelqu'un d'affaires ou quelqu'un qui a du cash pour voyager puis qui s'installe un mois. Tu sais, c'est pas du monde sur le party pendant un week-end ou une soirée pendant la semaine. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je sais pas vous autres, c'est quoi vos irritants, là, mais moi, dans la vie, là, du voisinage bruyant, je veux plus jamais avoir ça de ma vie. Là où je reste, je me demande si j'ai des voisins. C'est-à-dire que je croise personne. C'est une tour de 27 étages, il y a 300 unités. Je vois le gardien en bas, c'est tout, là. Je vois personne d'autre. Puis c'est franchement, je veux plus jamais vivre autre chose parce que c'est insupportable. Puis dans le Vieux-Québec, il y a la même affaire. Pour terminer, pour faire le tour, que c'est pas juste un truc par rapport avec une tour, croyez-moi bien. Dans le Vieux-Québec, il y a le même problème, c'est-à-dire que il y a plein de monde qui demande des permis pour faire de la location court terme. La ville n'a pas les ressources pour surveiller ceux qui en font. Ça a commencé par être un problème de compétition envers les hôtels. Donc, dans le Vieux-Québec, c'est 31 jours minimum. T'as le droit, mais 31 jours. Bien entendu, il faut que tu le déclares. Puis là, ben, il y a des complexes qui s'ouvrent juste en location court terme, etc. Mais ça, c'est correct. T'sais, c'est tout déclaré. J'ai rien contre ça. Mais il y a d'autres places où la réglementation est problématique, c'est pas clair. Et il y a l'adjoint de Anne Hidalgo, qui est la mairesse de Paris. Son nom s'appelle Yann Bossat, je pense. Puis il vient d'écrire un livre où lui, il dit que Paris est en train de devenir un gros Airbnb. Ou est-ce qu'il n'y a pas de réglementation suffisante? Pour des raisons que j'ignore, remarque, là, parce que ça se fait, là, ces règlements-là. La preuve, c'est que Québec l'a fait. Mais pour dire qu'il y a beaucoup trop de gens qui achètent. Et la nouvelle intéressante par rapport à ça, parce que, bon, tout ça, à quelque part, vous pouvez dire, ouais, ça parle d'immobilier à matin, c'est quoi l'affaire? Peu importe. Moi, ça m'intéresse. Puis, l'affaire, c'est que ça crée aussi une pression sur les prix. Alors, un autre article dans le journal Le Monde, il y a à peu près un mois, disait qu'il y avait des maternelles et des écoles primaires dans Paris qui fermaient, puis aucune ouvrait. Puis ça fermait parce qu'il n'y avait pas d'élèves. Et il n'y a pas d'élèves parce que c'est devenu impossible pour une famille de vivre à Paris. C'est pas juste parce que les apparts sont plus petits, puis c'est vrai, j'ai vécu un an, moi, à Paris, puis honnêtement, tout le monde vit dans la moitié d'ici, si c'est pas le tiers. Comme si de rien n'était, c'est la vie, c'est de même. Je suppose que des gens qui vivraient dans deux fois plus grand que nous autres feraient « Ah! Tu vis dans un 4,5 d'11 100 pieds carrés avec ta blonde, c'est impossible. » Ça fait que bon, nous autres, bref, l'Amérique du Nord, il y a de la place, là, mais quand tu arrives à Paris puis l'Europe, là, dans les grands centres, tu te rends compte que la place, il n'y en a pas. Il n'y avait pas avant, mais il n'y en a pas plus aujourd'hui. Puis ce que ça fait, c'est que le côté Airbnb de la chose, c'est des gens maintenant qui ont du cash, qui achètent, par exemple, un 6 logements, puis qui est uniquement à vocation de location à court terme, qui est bien plus payant que quand tu as des locataires normaux. Mais là, il arrive deux affaires avec ça. C'est-à-dire que c'est juste des gens fortunés qui sont capables d'acheter. Donc, Paris, c'est en train de se vider de la moindre famille normale parce que ça coûte trois fois au pied carré ce que ça coûte ici. Trois fois. Trois fois. Puis je parle de Montréal. Et ça fait une ville où personne réside. C'est-à-dire que sur l'île où il y a l'hôtel de ville, ça s'appelle l'île, je sais pas c'est quoi, j'oublie le nom, là. Il y a une genre de petite île là, qui est dans le milieu de la Seine, proche de l'hôtel de ville, là, justement. Bon, l'autre bord, il y a des services administratifs. Je pense qu'il y a l'Élysée, justement. Là. C'est comme un peu leur parlement. Là. Puis, ils disent qu'il n'y a plus personne qui vit là. C'est des touristes qui rentrent. Ça fait que pour les commerces aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que tu peux trouver ça très drôle, ton restaurant roule au bout. Mais à un moment donné, il y a des saisons mortes, tu sais, je veux dire, à Paris comme ailleurs. Puis pendant ce temps-là, ça prend des vraies personnes qui utilisent des vrais services. C'est que du roulement. Ça fait que l'économie de partage, là, je sais qu'il y en a qui débattent de ça, Uber, puis tout ça. Puis moi, Uber, je suis un client d'Uber. Donc, c'est pas vrai que je vais commencer à parler contre Uber. Mais je trouve ça vraiment poche pareil que Uber, d'un côté, est arrivé en disant, vous autres, là, les taxis avec vos licences, on s'en sacre. Puis on a tout embarqué là-dedans. Moi, le premier. Je fais pas mon smart, là. Moi, le premier. C'est sûr que le système est extrêmement bon, puis il a forcé les taxis à s'ajuster. Alors, oui, en bout de ligne, il y a quelque chose de bien là-dedans. Mais ce qui est poche, c'est le côté sauvage de compagnies qui arrivent de l'extérieur, qui envahissent la planète au complet, ce que j'appelle des perturbateurs. Puis, c'est pas moi, c'est le terme. Puis, qui tout à coup brassent toutes les affaires et tout en se disant, nous autres, on a du financement sans fonds. Écoute, Uber, là, c'est pas gratis. Ben, Uber, c'est des milliards de dollars dans le trou. Des milliards. J'ai juste pas le chiffre en face de moi. C'est que tu fais un peu. En plus, tu déranges toute une industrie de monde qui travaille. Oui, qui travaille un peu tout croche puis qui méritait à quelque part d'être redressé comme Uber l'a fait avec l'industrie du taxi. Donc, je reconnais ça totalement. Mais ça reste que c'est sauvage à mort. Ça fait que, bon, bref, un matin, mon point, c'était plus de prendre la nouvelle sur la tour des Canadiens puis de démontrer que il y a des désavantages à ce qu'on pense qui sont des avantages personnels. C'est-à-dire, tu sais, au début, c'était les grandes surfaces, Walmart, ça tue les petits commerces, etc. Puis finalement, ils ont gagné. Uber va finir par probablement gagner, etc. C'est que peut-être qu'on va tous y gagner au change, mais peut-être qu'en bout de ligne, on se rend pas compte puis on y perd tous au change. On ne rentrera pas nécessairement dans un grand débat de ça parce qu'il n'y a pas de solution miracle, mais ça me tentait de vous jaser de ça ce matin. On se reparle demain, bye.